Vous écoutez
RMC.
RMC. 7h-8h.
Votre maison, François Sorel.
Christian Pessé.
Il est 7h07. Merci d'être là. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et vous le savez, chaque samedi, après le jardin, avant de retrouver tout à l'heure la forme, la santé avec Christian Riquia. Avec Christian, tout à l'heure, on évoquera tous les désagréments des vacances et notamment les touristas. Alors, je ne sais pas si, mon cher Christian, vous avez été victime d'une tourista.
Jamais.
Ça, c'est pas possible. Vous êtes un terminator, finalement.
Hein. Non, j'ai jamais eu de touriste.
Bon, en tout cas, ça peut arriver. Hein. On peut être victime de ce type de désagrément. Comment prévenir ce type de choses? Ça sera tout à l'heure avec Christian. Et puis, on reviendra évidemment sur cette épidémie de Covid. Mais d'ici là, vous le savez, c'est la maison avec Christian. Toutes vos questions, bricolage, maison, au 3216, l'appli RMC Direct Studio. Mon cher Christian, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve samedi matin. Oui. Tout à l'heure, donc, la clim, la climatisation pendant la période de forte chaleur, forcément. Hein.
Ah oui, vous savez, la clim, c'est un peu décrié. Des fois, on considère que c'est pas très, comme on dit, politiquement correct. Mais quand il fait, comme il va faire aujourd'hui, dans certaines régions, 30, 35, et peut-être la semaine d'après, frôler les 40, moi, je connais pas d'autres systèmes pour véritablement rafraîchir. Donc, on va pouvoir en parler avec Yannick Merlet, qui est patron de Clim Plus, qui est une structure professionnel, c'est un distributeur, donc on pourra en parler avec lui tout à l'heure et se poser tous les problèmes avec même la question du Covid, hein, on en parlera puisque c'est aussi une des craintes. Est-ce que clim peut
est un vecteur de transmission du Covid?
Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les solutions? On parlera aussi de l'entretien parce que l'entretien de la clim, comme tous les systèmes qu'on va qualifier d'aérolique, hein, je pense à la VMC, vous savez, ça fait des années que je dis qu'il faut entretenir les VMC, il y a des VMC qui tournent depuis 30 ans. Sans avoir été inspecté une seule fois. On parlera de tous ces points-là, et puis aussi des gaz réfrigérants. On verra ce qu'il en est.
Voilà, toutes ces questions, bien sûr, et vos questions au 32-16. Vous souhaitez peut-être installer une clim chez vous, vous aimeriez poser une question bien précise. N'hésitez pas, hein, nous aurons notre expert avec nous. Vous pouvez nous joindre au 32-16 ou via l'appli RMC Direct Studio avec votre numéro de téléphone si vous nous joignez via l'appli. Dans un instant, on va parler aussi de ces propositions malhonnêtes, hein, parfois,
oui,
de
souvent.
Démoussage, de rénovation des toitures en tuiles, etc. Ça sera votre conseil de l'expert, hein, Christian. Ça sera dans une minute. Mais auparavant, et pour débuter ce week-end des experts maison, on accueille avec beaucoup de plaisir Yves.
Bonjour.
Bonjour Yves.
Bonjour Yves.
Bonjour à tous les deux.
Et bienvenue Yves.
Merci bien, je suis content que vous preniez ma question en compte.
Eh bien nous on est content que vous nous posiez cette question, donc tout va bien.
tant mieux. C'est plus une question de formalité parce que en somme, les sommes engagées ne sont pas excessives. Et j'ai fait monter chez moi une porte dite une porte de pour remplacer mon ancienne porte en bois qui était complètement HS.
Ouais, j'ai vu, c'est une porte en PVC.
En PVC blanc. Ouais,
vous m'avez envoyé la photo, c'est très bien quand vous nous envoyez les photos.
Ah, donc, la photo de la facture et puis de la porte.
Mmh.
Et donc, ça fait maintenant 9 ans. Et il y a quelques mois de cela, la poignée qu'on relève normalement pour fermer la clé, le ressort a cassé.
Eh oui.
Donc la poignée ne se remet pas. Il faut la tenir manuellement pour fermer la porte, ce qui est un peu plus difficile. Bon, je n'ai pas fait trop attention sur le coup. Et le jour où mon installateur de fenêtre est venu, je lui ai montré, il a regardé, il a dit « Ah oui, c'est le ressort qui est cassé, je vais voir ça, c'est pas grand-chose ». Donc il a démonté. Il est monté, parti à Dijon, à la quincaillerie du coin, et il m'a dit que son modèle ne se fait plus.
Ah, bon. Vous changez donc la porte.
Voilà, pour prendre sur sort, on change la porte.
Oui, c'est
bon, là-dessus, je dis, bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Et il y a quelques semaines, je tombe sur ma facture.
Oui.
Et qu'est-ce que je vois sur la facture? Garantie 10 ans.
Oui.
Alors j'appelle le vendeur. Une première fois, j'ai réussi à la voir. Il me dit, écoutez, on va passer, mes ouvriers vont passer bientôt. Il me téléphone, moi, ce jour-là, je n'étais pas là, donc il dit, on repassera. Plus rien. Il appelle une deuxième fois, ok, bon, on vous rappelle. Rien. Je rappelle une troisième fois. Et je dis, trois fois que j'appelle.
Et alors?
Donc, on va vous rappeler. Et je lui dis, écoutez, c'est juste pas grand chose, c'est la clanche la clanche, la ressource est versée. Et comme c'est garanti 10 ans, mais le problème, c'est que la porte est garantie 10 ans, mais l'accessoire de la poignée, le ressort et tout, eux, sont garantis 2 ans.
Oui.
Mais seulement sur ma facture, ça n'apparaît pas, ça.
Bien sûr. Bon, alors. C'est tout à fait clair et moi je vais vous donner un conseil très précis. Les portes sont couvertes par la garantie décennale, donc 10 ans, en matière notamment d'étanchéité. Puisque s'il n'y a plus d'étanchéité, la maison pourrait ne plus être habitable, enfin difficilement si ça fuyette partout, donc c'est la garantie décennale. La quincaillerie, c'est-à-dire la mécanique, est garantie effectivement, on a raison de vous dire ça, est garantie 2 ans, c'est-à-dire c'est la garantie de parfait fonctionnement. Donc sur ce plan-là, sur le plan de la garantie décennale, votre artisan a raison. Sauf que il n'a pas marqué garantie décennale, il a marqué garantie 10 ans. Donc il vous doit la garantie 10 ans sur l'ensemble de la porte. Donc vous êtes en droit d'exiger qu'il vous remplace le ressort gratuitement.
D'accord.
C'est clair.
Il y a une différence garantie décennale et garantie 10 ans.
Bien sûr. Il y a des quantités de choses qui sont garanties 10 ans sans être en garantie décennale. Donc, le fait qu'il vous aurait mis en bas garantie décennale.
Oui, c'était
pour vous. Vous l'aviez dans quelque chose, puisque de toute façon, la quincaillerie, on va dire, les pièces mécaniques de la porte ne sont garanties que 2 ans. Mais puisqu'il vous a mis garantie 10 ans, vous pouvez lui dire, écoutez, monsieur, vous m'avez mis 10 ans, mais pas mis garantie décennale, donc vous me devez la garantie sur 10 ans du bon fonctionnement de ma porte.
Mais ouais. C'est quoi la différence décennale?
Eh bien, la décennale, c'est une garantie légale qui concerne l'ensemble du bâti, on va dire, dont la défaillance pourrait rendre la maison inhabitable. Donc ça, c'est la loi. Et lorsqu'on vous écrit garantie 10 ans, c'est qu'on prend une garantie, privée au niveau de l'entreprise. Si on vous vendait demain une voiture, on vous dit garantie 10 ans, ça n'entrerait pas dans une décennale. Ça serait une garantie spécifique qu'on vous a donné. D'accord.
Et d'autant plus que la première personne à qui j'ai appelé mon vendeur de fenêtres m'a dit qu'il ne savait plus ce système-là.
Ah bah écoutez, alors il vous change toute... alors c'est pas grave, vous allez lui dire...
Il change toute la porte.
Changez-moi toute la porte, c'est pas un problème puisqu'elle est garantie 10 ans.
C'est dingue, un mot, hein.
Ah bien sûr.
Garantie décennale.
C'est toute
la... Garantie 10 ans, ce n'est pas la même chose.
Dans le domaine du juridique, c'est parfaitement évident.
Parfois, ça se joue à la virgule même. Hein.
Ah, bien sûr.
Bon. Écoutez, Yves, en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Hein. Tenez-nous au courant, tiens.
Ouais, ça va être difficile, hein. Il va quand même avoir du mal, à mon avis. Hein.
Ouais.
Ah oui. Sauf sur la réputation de l'entreprise, sauf à dire partout, c'est pas bien, il m'a pas appliqué sa garantie, mais sinon, il va pas aller au tribunal pour ça. Hein.
Non, ça c'est clair. Il est 7h15, Christian, il est temps de retrouver votre conseil béton.
RMC, votre maison.
Le conseil béton.
Béton.
De Christian Pesset.
Christian, ce matin, vous allez peut-être nous aider à faire des économies,
oui, je pense.
À ne pas dépenser notre argent n'importe comment.
Oui, parce que en ce moment, particulièrement en ce moment, mais d'une façon générale.
Alors pourquoi en ce moment?
Depuis des années, parce que il y a eu 3 mois où les entreprises n'ont pas tourné, donc il y a besoin de trouver du travail. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, régulièrement, vous voyez une camionnette blanche qui s'approche de votre maison, quelqu'un qui en descend, qui vous dit tiens, vous avez vu votre toiture là-haut, il y a de la mousse, ça va l'abîmer, ça va fuir, appuyez les tuiles, elles sont un petit peu passées de couleur. Alors vous levez la tête, vous regardez votre toiture, vous dites j'avais pas vu. Il y a un petit peu de mousse, il y a un petit peu de lichen, et puis là, la suite du discours c'est généralement la même, c'est vous savez, on a plusieurs chantiers dans votre résidence, on pourrait démousser vos tuiles, on pourrait les imperméabiliser, les traiter, les rénover, leur passer une peinture, et vous dites pourquoi pas. Alors vous posez la question du prix, on vous dit d'habitude c'est 70-80 euros le mètre carré, allez là je vous
je vous l'ai fait pour 40, allez, on y va. Il y a une toiture, parce que on a beau avoir une maison qui fait 80 mètres carrés au sol, la toiture, elle en fait plus, évidemment, donc elle fait 100, 120, 130, et bingo, vous avez une facture de 5 000 euros, c'est le classique, quoi, c'est la moyenne, 4 008, 5 002, quoi, je vais dire. Et puis vous signez, parce que vous dites, attention, mais on s'en va demain après-midi, alors hop, vous signez le truc, vous acceptez, et puis vous voyez quelques minutes après, donc de la camionnette blanche sortir un nettoyeur sous haute pression, oui, sortir des bidons à la marque improbable, et puis de la peinture pour les tuiles, et vas-y donc, il y a 4 personnes qui montent sur le toit, qui piétinent le toit, etc. Dans le meilleur des cas, ça peut se passer correctement. J'en parlais avec Nuno tout à l'heure, il l'a fait il y a quelques années.
Ah, il s'est fait avoir lui aussi.
Ben, il s'est fait avoir. Content parce qu'il dit finalement, ma voiture est le meilleur. Bon, sauf que donc.
Mais là, c'était le même scénario. Il y avait une camionnette blanche qui est venue.
J'en ai parlé avec lui quand il est sorti de studio. Il dit ouais, c'est à peu près la même chose. Donc c'est un grand classique. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la très très grande majorité des cas, les lichens, les mousses, ça n'abîme pas une toiture. Point. Faut déjà dire, ça n'a aucune chance de rendre les tuiles poreuses. D'abord,
ça va pas attaquer la tuile
Les tuiles avant que ça devienne poreuse. Les tuiliers garantissent pour certains leurs tuiles 30 ans, 35 ans. C'est vous dire qu'ils sont confiants dans l'étanchéité de cela. Alors, ce qui se passe après, généralement, ce qui peut se passer, ce qui se passe souvent, c'est que non seulement vous avez dépensé une fortune, mais c'est là que vous montez dans votre grenier, vous dites
il y a de l'eau.
Oui, mais alors là, comment ça fuir ? Pourquoi ? Eh bien, parce que si vous êtes tombé sur une entreprise incompétente,
peu scrupuleuse,
en marchant sur les tuiles, qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont décalé des tuiles.
Ils ont déplacé des tuiles.
Ils ont passé, effectivement, de la haute pression à 3 cm des tuiles pour qu'elles soient bien décapées. Alors, elles sont tellement décapées qu'elles ont perdu leur surface d'imperméabilisation. C'est surtout vrai pour les tuiles béton, par exemple. Hein. Et puis...
elles ne sont pas repeintes derrière en
Ah oui, mais si, mais à ce moment-là. Mais elles sont repeintes. Mais alors d'abord, on leur met un produit d'étanchéité, enfin, on appelle ça un produit hydrofuge. Alors, on traite avec ça. Et puis, dans certains cas, on repasse une peinture, mais laquelle peinture n'est pas forcément sur toutes les parties des tuiles. Il y a des parties, forcément, on n'a pas déposé les tuiles. Donc, il y a de l'eau qui s'infiltre dedans. Et c'est là, pour le coup, qu'une toiture qui avait un petit peu de mousse, mais qui était parfaitement étanche, elle ne l'est plus. Alors il y a aussi un signe qui peut vous inquiéter, c'est que si vous avez une toiture sans isolation avec donc les tuiles directement apparentes, il arrive qu'on ait des gouttes d'eau, c'est-à-dire qu'on voit de l'eau qui tombe. On dit la toiture elle est plus étanche, mais c'est de l'eau de pluie, c'est de la condensation qui se passe sous les tuiles qui se rafraîchissent la nuit, alors que l'intérieur de votre grenier il est plus chaud et plus humide, et donc il y a de la condensation. Et vous êtes fait avoir parce que on vous a démontré qu'il y avait des fuites en couverture. Alors moi, ce que je vais vous dire, c'est classique. Hein. Dans tous les cas, ne faire confiance qu'à une entreprise qui est clairement identifiée, qui est capable de produire un CABIS, c'est-à-dire une attestation d'inscription en registre
du métier. La camionnette blanche, sans logo, sans numéro de téléphone, sans rien.
Attends, une camionnette d'entreprise, c'est quoi ? C'est une publicité ambulante.
Bien sûr.
Donc pourquoi on a des camionnettes qui
pourquoi
sont sans identification ? Moi j'ai toujours été très réservé. Voyez aussi si cette entreprise elle a bien son attestation d'assurance responsabilité professionnelle à jour, puisque comme on touche à la toiture, on entre dans la décennale dont on parlait tout à l'heure. Et puis voyez si l'entreprise est par exemple a une certification sérieuse du style Calibat, RGE en l'occurrence là c'est pas très important, mais Calibat par exemple. Et puis surtout, ne vous laissez pas impressionner en disant attends, faut faire ça tout de suite parce que demain on n'est plus là. Hein, et puis on vous fait la moitié du prix. Si on vous fait la moitié du prix, il devrait y avoir quand même un petit signe de bras d'arnaque. Enfin,
c'est que le prix initial n'est pas
donc,
forcément
encore une fois, je répète, il y a des entreprises sérieuses qui font ce genre de travail. Quand on veut rénover sa toiture, eh bien pourquoi pas. Mais attention aussi, c'est que vous avez une maison, elle a l'âge de ses murs et de ses toitures. Donc si d'un seul coup vous faites une toiture complètement à neuf avec un rouge brique béton là, avec une façade qui est pas terrible, ça, c'est une verrue, c'est pas non plus. Moi je dis toujours.
Oui, c'est-à-dire qu'une toiture ancienne, ça fait partie du charme d'une maison.
Mais bien sûr, accepter un petit peu la patine du temps, ne vous laissez pas donc impressionner de cette façon-là. Puis surtout pour des prix qui, dans certains cas, vous allez payer la moitié du prix de la reine, du remplacement de vos tuiles. Parce que n'oubliez pas que même si vous mettez si les travaux sont bien faits, mais une peinture sur des tuiles, ça dure 5 ans. Hein. Au bout de 5 ans, ça sera terminé, parfois moins d'ailleurs. Même chose pour les ardoises, d'ailleurs c'est encore pire pour les ardoises.
Jean-Maximilien sur Direct Studio qui nous dit « Attention aussi aux personnes qui veulent venir nettoyer les cours chez vous ».
Ah bah oui, ça doit être...
Parfois des essais de produits à base de chlore qui peuvent abîmer les sols et laissent des marques.
Oui, parce que vous avez ça aussi. On ne sait pas ce qu'il y a dans les bidons. Alors, il y a des bidons qui sont remplis avec des produits homologués, qui sont sans agression, qui sont biodégradables, qui sont sans agression sur l'environnement. Mmh. Et puis, vous avez la fameuse eau de Javel. Moi, je dis que ça donne l'eau de Javel en bidon en grosse quantité devrait être interdite à la vente dans les grandes surfaces de bricolage. Parce que c'est un produit effectivement qui va vous paraître économique, mais qui est blanchissant, donc qui dans certains cas va poser des gros problèmes sur un certain nombre de matériaux, qui attaque les métaux, et puis qui est très nocif pour l'environnement et pour vos bronches. Christian Ricard n'est pas là, mais il pourra le confirmer.
Christian, on revient dans un instant et on va se rafraîchir.
Ah, c'est bien.
Les températures vont monter dans les jours qui viennent et on va évoquer la clim. Quelle climatisation choisir pendant cette période de forte chaleur ? On va faire un point à la fois sur les types de climatisation, les installations et puis bien sûr l'entretien. Vous avez des questions sur ces sujets ? Dès maintenant, profitez-en. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On vient juste après la météo.
Vous avez la clim ici ?
RMC.
Jusqu'à 8h.
Viens mettre un peu de clim, s'il te plaît.
Sans la clim, t'es mort dans le film.
C'est un très beau slogan que vous avez là.
Il y a de la moquette au plafond ?
Bien entendu, vous êtes en catégorie luxe.
Bon, trop chaud en été, la moquette au plafond.
Votre maison.
Mais l'été, j'adore. Je vais transpirer du crâne.
Mais non, mais il y a une climatisation par le sol, monsieur. Vous êtes refroidi par les pieds.
François Sorel.
Enlevez vos chaussures, vous allez sentir le frais.
Je vais pas le faire maintenant, j'ai un problème de chaussettes.
Christian PC.
Je les adore.
Eh oui, Régis Las Palès. Alors, voilà, ça y est, on a mis la clim dans ce studio, Christian.
Oui, ben justement, un peu chaud, je trouve.
Vous trouvez ?
Ouais, je trouve que là, il fait...
Bon, attendez, on va toucher le thermomètre.
On a toujours eu des problèmes de clim dans les studios, de toute façon.
Hein, avec toutes ces lumières, ces appareils, etc., c'est vrai que c'est pas le plus facile. Et pourtant, il y en a. Alors, on va évoquer la clim, et bien sûr, vos questions sur ce sujet, dès maintenant, le 32-16, ou bien via l'appli RMC Direct Studio. Les chaleurs vont arriver, enfin, on a déjà eu plusieurs vagues.
Il y a des endroits en France où ça va largement dépasser les 30 degrés.
Et puis, on se rend compte aussi que la canicule, maintenant, il y en a partout.
Et
quand ça arrive à Paris, c'est étouffant. Et franchement, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de l'incidence que ça peut avoir sur, évidemment, l'environnement, la climatisation. Mais pour certains, et notamment pour les personnes un peu âgées, il n'y a pas le choix.
Il n'y a pas le choix, notamment en milieu hospitalier. Et puis,
même à la maison, on commence on un peu à vieillir.
Des personnes âgées.
Bien sûr.
Nous sommes ce matin avec Yannick Merlet. Bonjour.
Bonjour Christian. Bonjour.
Yannick, vous êtes directeur général de Clim Plus. C'est un distributeur pour professionnels de la clim, la ventilation et le chauffage dans le cadre du groupe Saint-Gobain. Donc, vous êtes un spécialiste du sujet. Ma première question va être toute bête. Ça marche comment une clim ?
Oh, c'est comme votre réfrigérateur chez vous, exactement pareil. C'est juste un tout petit peu plus gros.
Ouais. Hein,
et on prend du chaud pour faire du froid.
D'accord.
C'est ce qu'on appelle un système
thermodynamique. Et puis c'est ventilé. Plus ventilé que dans le frigo.
Voilà. Et puis, on a donc une pompe à chaleur à l'extérieur.
Ah bah bien sûr. Hein.
C'est ça, c'est une pompe à chaleur.
Une climatisation est une pompe à chaleur.
D'accord, mais au lieu, quand elle vous chauffe, pompe à chaleur, au lieu de pomper des calories à l'extérieur, elle pompe des calories dans votre pièce.
Complètement.
Ouais. Et elle vous les évacue vers l'extérieur.
Voilà.
Donc, alors, il y a pas mal de systèmes. C'est quoi les dispositifs ? On parlait de split, multi-split, gainap, tout ça. C'est quoi ? En quelques mots,
le plus connu, c'est le monosplit, c'est-à-dire je prends une unité extérieure pour traiter une pièce, donc avec une unité intérieure. Ensuite, quand vous voulez traiter plusieurs pièces à l'intérieur de votre logement, on va passer sur une solution multi-split, c'est-à-dire une unité extérieure, mais à ce moment-là, 2, 3, 4, 5 unités intérieures, suivant le nombre de pièces que vous avez à traiter.
D'accord.
ou à ce moment-là, ou autrement, pardon, vous avez un système dégainable, hein, et à ce moment, et donc on va mettre cette unité intérieure dans les plafonds, ça sera complètement invisible, avec un réseau de gaines qu'on raccorde à des bouches.
C'est ce qu'on a dans les hôtels, par exemple.
Alors c'est ce que vous avez dans les hôtels, oui, un petit peu, quoi. Mais aujourd'hui, c'est pour moi, en logement individuel, la meilleure solution, puisque c'est complètement invisible.
D'accord. Mais alors, j'ai vu aussi, je vais vous poser la question, pourquoi ça ne décolle pas, c'est de tout mettre à l'intérieur, parce qu'il y a la possibilité, il y a des appareils où on a tout à l'intérieur, avec un trou dans la façade, mais ça ne décolle pas, ça. Pourquoi ? C'est parce qu'on ne peut pas toujours mettre un groupe à l'extérieur, notamment pour des raisons esthétiques et au niveau légal.
Oui. Alors c'est ce qu'on appelle un monobloc. Pourquoi ça ne fonctionne pas plus que cela ? C'est parce que ça fait du bruit.
Il est difficile, oui. Ça fait toujours un peu de bruit, les clims, non ?
Mais à partir du moment... ce qui fait du bruit, c'est le compresseur.
Principalement.
Et si ce compresseur est dans l'unité extérieure, c'est-à-dire... On l'entend pas. Oui, presque. c'est un monobloc, si c'est un appareil monobloc, tout est à l'intérieur. Et donc, vous avez le risque de bruit, de monter à des décibels qui vont vous empêcher de dormir la nuit.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, ça c'est embêtant. Entre les ronflements de Christian plus la clim, on est mal barré là.
Là, on cumule.
Les voisins vont taper.
On cumule. Les boules qui s'il vous plaît. Eddy est avec nous au 32-16. Bonjour Eddy.
Bonjour Eddy.
Bonjour monsieur.
Bienvenue Eddy sur RMC.
Merci.
Allez-y.
On vous écoute.
Alors voilà, donc moi j'ai une maison donc à étage qui fait à peu près 110 mètres carrés. Et donc j'envisage d'installer une climatisation. La spécificité c'est que j'ai une maison qui est isolée par l'extérieur avec du polystyrène de 12 cm.
Oui.
Et ma question était de dire comment je peux fixer efficacement l'unité extérieure qui doit peser à peu près 50-55 kilos, surtout pour l'étage, parce que sur l'étage, il y aura une prise split qui sera installée. Et est-ce que la fixation standard avec les équerres va permettre de pouvoir tenir cette charge-là sur la durée et surtout ne pas enfoncer le polystyrène ?
C'est une bonne question, ça.
Excellente question. Ça dépend de la résistance mécanique de l'isolant.
Si c'est du PSE, c'est-à-dire du polystyrène, ça tiendra à rien.
Personnellement, je ne vous le conseille pas d'accrocher l'unité extérieure sur l'isolant.
Sur le polystyrène, voilà, d'accord.
Donc, pour moi, la seule solution, c'est de la poser au sol. Hein.
Mais vous avez la possibilité de la poser au sol ?
Alors oui, j'ai la possibilité. En fait, je voulais la mettre au hauteur plutôt pour des questions d'esthétique. Et surtout de sécurité, j'ai trois enfants qui courent autour de la maison. Et donc, je voulais éviter qu'ils tapent les pieds dedans ou que le ballon tape dedans régulièrement. Et j'envisageais de la mettre juste au-dessus de la terrasse, contre le mur.
Ah, vous avez une terrasse ?
En fait, oui, ça fait une terrasse couverte avec des tuiles. Et juste au-dessus de la terrasse, je pensais le fixer contre le mur.
Alors, voyez avec votre installateur, mais ça peut être compliqué, surtout au niveau du SAV.
Service après-vente.
L'installateur, s'est obligé de prendre une échelle et d'être un peu équilibriste sur votre toit pour arriver à faire l'entretien, ça risque d'être compliqué.
Ouais. Et puis, alors, si vous la posez au sol, ce qu'il faut, c'est pas que ça touche la façade, hein. Faut essayer de la décoller un peu.
Oui, il faut 40-50 cm, grosso modo. Mais si vous avez peur pour vos enfants, vous avez aujourd'hui des systèmes qui protègent l'unité extérieure.
Voilà, il y a des habillages.
Qui cassent le bruit. Complètement esthétique. Hein.
Et qui cassent le bruit.
Oui, alors sur la partie du bruit avec les appareils qu'on commercialise aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la...
Qu'est-ce qu'il faut demander comme niveau de bruit en décibels ?
Alors en décibels sur une unité extérieure, si on est à 45, c'est...
Oui, 45 c'est bien, parce qu'à 50, c'est à peu près le bruit d'une conversation. Hein.
Oui, c'est ça. Ouais. Et vous avez des produits aujourd'hui qui sont de l'ordre de 30-35.
Quoi. Ouais. Après, ça peut poser des problèmes pour le voisinage ou pas ?
Oui.
Ça peut poser des problèmes, oui, effectivement. Mmh.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, là, dans ce cas ? Avertir le voisin
Oui, mais ça ne lui changera pas la nuisance. Je crois qu'il y a des recommandations.
En tout cas, se préoccuper de ça.
Oui. Il y a des recommandations, notamment sur le site de l'AFPAC, l'Association française de pompes à chaleur, sur le positionnement. Parce que souvent, le seul fait, si on le met, par exemple, dans un angle, eh bien, ça va évidemment faire une réverbération du son, des choses comme ça.
Alors, il y a ça. Alors, sur une climatisation, on a rarement le souci. On a plutôt ces soucis-là sur des pompes à chaleur, hein, qui ont des puissances nettement plus
importantes.
Pour le chauffage. Enfin, chauffage à eau.
Oui.
Pas par air. Voilà.
D'accord. Alors, attendez, j'ai Patrick qui nous pose une question intéressante. Il nous dit, sur les splits, j'ai une fonction purificateur d'air. Comment cela fonctionne-t-il et est-ce que c'est efficace ? Il y a des clims avec une fonction purificateur d'air ?
Là, on entre dans la question, justement, de la diffusion des virus, éventuellement. Hein.
Voilà, complètement. Alors, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Parce que moi, j'entends tout et n'importe quoi aujourd'hui sur la climatisation. entre autres qu'elle véhicule le Covid, ce qui est complètement faux. Dans le sens où un climatiseur n'a jamais fabriqué un virus et n'a jamais...
Oui, mais il prend de l'air à l'extérieur où il peut y avoir des virus.
Non, climatisation, non. Vous prenez l'air intérieur.
Prenez l'air intérieur.
On prend que l'air intérieur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on va dire la moitié des unités intérieures, la moitié des climatisations qui sont vendues en France sont avec un système de filtration dit plasma.
D'accord.
C'est des appareils qui sont plutôt haut de gamme, c'est pas sur des entrées de gamme traditionnelles. Ces appareils sont virucides à 99%. Je répète.
Donc c'est le filtre.
Oui, ils sont virucides à 99%, y compris pour le Covid d'ailleurs. Ça veut dire que si l'air rentre passe par l'unité intérieure de la climatisation.
En clair, s'il y a une personne qui a le Covid dans la pièce.
Le virus est détruit.
Le virus est détruit.
Voilà. Par contre, si l'air ne passe pas par l'unité intérieure, forcément, il y a un flux d'air qui va faire que le virus il va se propager. Et je ne sais pas si vous avez entendu ce qui s'est passé en Chine là, dans un restaurant. Où,
oui, en fait, le virus...
Un certain nombre de journalistes ont dit « Ah, la clim provoque... favorise le
Covid. » Mais qu'est-ce qui s'était passé en Chine?
Alors, j'y étais pas, déjà.
Non, d'ailleurs.
Vous
avez l'air en bas de
mais je peux supputer que, effectivement, l'air n'est pas passé par l'appareil de climatisation. Et comme on déplace un flux d'air, forcément, si les virus étaient à l'entrée sans passer par l'unité intérieure... ils ont été véhiculés sur la table d'à côté. Mais ça n'a rien à voir avec la climatisation. Ce n'est pas la climatisation qui provoque ça. Vous avez ça aussi avec une ventilation mécanique contrôlée, une VMC.
Alors, juste pour essayer de répondre correctement à la question de notre auditeur, est-ce que la fonction purificateur d'air, qui est autre chose, on est d'accord, ça enlève les virus et ça dépollue aussi l'air intérieur. Est-ce que ça fonctionne vraiment? C'est autant efficace qu'un purificateur d'air que Christian, de temps en temps, nous détaille?
Alors, c'est deux appareils différents, mais vous avez une fonction purification dans les appareils de climatisation, de par la qualité des filtres que vous avez dedans.
Mais il faut s'assurer que c'est une filtration plasma.
Alors,
sinon, c'est...
Pour ce qui est... pour répondre à la partie virucide, oui.
Virucide, voilà.
Donc, oui, mais par exemple, toutes les particules fines qu'on retrouve,
bien sûr, là,
vous savez, dans l'air, etc. Là, il faut un filtre plasma ou est-ce qu'un filtre traditionnel suffit?
Non, les climatisations traditionnelles filtrent ça.
Avec un filtre EPA.
Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc, le filtre plasma, lui, filtre en plus les virus. Voilà. C'est ça, à 99%, c'est ce que vous dites.
Pour répondre à la question de Covid.
Sinon,
virus et bactéries, j'imagine.
Oui,
aussi.
Bien sûr.
Sinon, il faut une filtration EPA, H-E-P-A.
C'est ça.
D'accord. C'est ce qui permet de filtrer vraiment.
Juste une question sur ce filtre plasma. Ça s'entretient, ce truc-là? On l'enlève, on le nettoie?
On le nettoie.
D'accord, tout simplement.
Ça demande un entretien annuel.
D'accord.
Tout simplement.
Et on peut le faire, nous-mêmes, on peut le faire ou c'est plutôt à faire par des spécialistes?
Oui, c'est spécialiste, moi, je crois.
Vous avez, de par la législation, l'entretien d'une climatisation est obligatoire annuellement.
Annuellement.
Oui. Mais à partir de quel niveau? Pas pour toutes les clims.
Oui, alors.
J'aime bien vous tirer les verres du nez, là.
Christian.
Notre législation française dit à partir de 2 kilos de gaz, c'est-à-dire 9 kilowatts restitués, donc c'est beaucoup.
Ouais. D'accord, 9 kilowatts. Parce que l'histoire du...
Oh, mais on ne sait pas ce que ça représente. Vous nous sortez 9 kilowatts, c'est votre job.
C'est écrit sur l'appareil.
Non, mais d'accord, mais on a un appartement, on a 80 mètres carrés.
100 mètres carrés, quoi.
100 mètres carrés.
100 mètres carrés, on dépasse on a 9 kilowatts.
Oui, on a besoin de ça aujourd'hui.
D'accord.
D'accord, oui, parce que moi j'ai cherché la notion de poids de liquide réfrigérant dedans, on la trouve nulle part.
Oui.
Nulle part. Hein.
Non,
ça pourrait peut-être tirer un peu les oreilles des fabricants là. Hein.
Technicien.
Et alors attendez, quand donc admettons que j'ai une clim qui fasse plus de 9 kilowatts et je suis donc obligé de la faire entretenir chaque année. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que va faire l'installateur quand il va venir? Quel entretien fait-il?
Alors, il fait un entretien du raccordement électrique pour voir si ça n'a pas bougé, si les fils sont toujours bien connectés. Il va faire l'entretien de la pression de gaz à l'intérieur de l'appareil pour savoir s'il n'y a pas eu des fuites. On peut admettre que s'il y a une fuite de réfrigérant, l'appareil peut tomber en panne, mais si la fuite est minime, il ne va pas forcément tomber en panne, mais il va chuter en performance.
D'accord.
Et puis une fuite, il faut la réparer. Voilà. Et lui, il va nettoyer les filtres aussi.
Les filtres que nous, on peut nettoyer ou d'autres filtres aussi auxquels il a accès?
Non, les filtres sont systématiquement à l'intérieur de la maison. Donc, n'importe qui peut le faire à partir du moment où on sait comment faire.
D'accord.
Ouais. C'est pas très compliqué. Hein.
Non.
Sur un split, on ouvre la grille, on tire le filtre qui est un peu enroulé à l'intérieur, on le passe sous l'eau tiède. Attention de ne pas d'eau trop chaude, parce que ça peut déformer les filtres. On n'y va pas au karcher. Éventuellement, si on veut, on peut passer un coup de jet, hein, mais un jet basse pression, quoi. Ouais, le jet de arrosage, et puis c'est tout. Je cite toujours, si vous voulez trouver un installateur, enfin un réparateur, je cite toujours le SINASAV, SYNASAV.
Et ça coûte combien d'entretien comme ça, quelqu'un qui vient chez vous pour nettoyer de manière annuelle une clim?
Je dirais 150 euros.
150 à 200 euros.
Ok. On revient dans un instant. Bernard sera avec nous. Qui aimerait bien installer une clim monosplit pour son appartement de deux pièces. Est-ce que ça va suffire? C'est la question qu'il va nous poser. Et puis bien sûr, toutes vos autres questions clim 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On est là dans une minute, à tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
C'est
jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
8h moins le quart, et ce matin en compagnie de Christian Pessé, de notre invité Yannick Merlet, on évoque la clim avec bien sûr vos questions. Je vous propose tout de suite, messieurs, d'accueillir Bernard qui est avec nous au 32-16. Bonjour Bernard.
Eh bien bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Bernard sur RMC, on vous écoute.
Bien voilà, je me suis renseigné et je ne peux pas prendre de décision, donc j'ai besoin d'un petit conseil. J'ai un appartement qui est composé de deux petites pièces de moins de 10 mètres carrés chacune. Et elles sont séparées, ces deux pièces, par un petit escalier de 5 marches. Voilà. Je voulais savoir si je peux mettre un seul split dans une pièce pour climatiser les deux, parce que ça, c'est faisable. Par contre, mettre un split dans chaque pièce, c'est pas faisable.
Donc ça veut dire que... Alors d'abord, vous êtes dans quel coin ?
Dans le Var,
donc il fait un peu chaud. Et donc vous avez, mais c'est vraiment un tout petit appartement, donc vous avez 20 mètres carrés au total.
Oui, 22 mètres carrés, d'accord. Y compris la salle de bain.
Bon,
alors on va forcément très bien traiter une pièce. L'autre ne sera traité qu'à moitié.
Voilà.
Voilà, parce que en fin de compte, le flux d'air, moi, je sais pas de quel côté il va aller, quoi.
Oui, ça dépend où on est. Alors, est-ce qu'il va falloir mettre l'appareil dans la pièce qui est en bas ou dans la pièce qui est au-dessus?
Ah, j'ai compris qu'ils étaient juxtaposés.
Non, mais il y a 5 marches.
Oui, 5 marches.
Bon. Ça change rien?
Non, ça va pas changer grand-chose.
D'accord.
5 marches, ça fait quoi? 1 mètre?
Oui.
Un petit peu plus, parce qu'il y a un petit palier aussi, quoi.
Il y a
2 mètres de couloir, quoi.
Ah, il y a un petit couloir?
Oui.
Alors ça va marcher encore moins bien.
Là, ça va marcher encore moins bien.
Oui, parce que
les deux pièces seraient contiguës. Vous n'auriez pas de problème parce que les deux pièces seraient traitées pratiquement compte tenu du volume et des surfaces. Mais là, si vous avez des marches plus un
couloir, l'air va se réchauffer en traversant le couloir.
Je conseille à votre auditeur de mettre un petit bisplit.
Un petit bisplit.
Voilà.
Pas un petit biscuit, mais un petit bisplit,
c'est-à-dire deux unités intérieures. On traite chaque pièce sur une seule unité extérieure.
D'accord. Et ça coûte combien?
D'accord.
Ça coûte combien?
Ça coûte combien? Ça va coûter 2500 euros.
Ah, oh, ça va.
Oui.
Hein, ça vaut le coup dans le Var.
Oui, en fait, la réflexion que je me faisais, c'est que l'air froid pousserait l'air chaud dans la chambre et ne ferait pas la clim dans la chambre. Voilà, ouais. C'est ma réflexion.
C'est ce qu'on peut penser, mais voilà, ça ne se passe pas forcément comme ça.
Ouais. Mais
pour avoir un vrai confort, pour l'appartement de Bernard, qui n'est pas grand, 22 mètres carrés, c'est pas grand. Ouais. Mais pour avoir un vrai confort, il lui faut deux petits splits, en fait.
Non, il lui faut deux unités intérieures sur une unité extérieure.
D'accord.
Donc on appelle ça un bisplit.
Un bisplit.
D'accord.
Ok. Voilà, Bernard. Mais vous avez fait venir des professionnels chez vous, déjà, ou
non.
pas?
Non. Je me suis fait une réflexion personnelle sur le sujet.
C'est une bonne idée.
Vous avez l'avis d'un expert.
Ça peut aussi chauffer, non?
Ah oui, complètement, oui.
Donc
c'est réversible.
C'est réversible. D'accord.
Ok, et ça chauffe aussi bien. Alors, parce que on parle souvent de chauffage, mais est-ce que ça se substitue à un chauffage, on va dire, plus traditionnel, au convecteur?
Ah, mais bien sûr, le marché est là. Je vais vous donner un chiffre d'ailleurs. Le taux d'équipement en France des logements équipés de climatisation, c'est 4%.
Il y a de la marge.
Donc voilà, le marché est pas tout à fait né encore.
Non. Christian, mais est-ce que c'est une chaleur agréable?
Ah, la chaleur de la clim.
J'allais dire la chaleur de la clim. La chaleur de la pompe à chaleur.
Faut être clair. Un flux d'air chaud, c'est jamais aussi agréable qu'un chauffage central, quoi.
Pour se calmer un peu, c'est pas des sèche-cheveux non plus.
Non, mais enfin bon. Alors c'est ma position. Dans une situation comme celle qu'on vient d'écrire, c'est l'idéal de faire du réversible. Si on a une maison, on peut aussi imaginer qu'il y a d'autres solutions pour le chauffage que le réversible.
Voilà. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, tous les appareils sont sur une technologie inverter, y compris les unités intérieures. C'est-à-dire que le moteur s'adapte aux besoins du logement. Si je reprends l'exemple de votre auditeur précédent avec ses petites pièces, forcément on n'est pas en grande vitesse si on n'a que 10 mètres carrés. Donc on est forcément en petite vitesse pour traiter et là vous ne sentez rien.
Alors ceci étant, une clim, il faut être objectif, en fraîcheur c'est énergivore quand même, non ?
Oui. Une énergivore, on va se comparer à du convecteur électrique par exemple.
Non, mais je vous parle en rafraîchissement.
Mais je vais vous répondre.
Oui.
Que ce soit en rafraîchissement ou en chauffage, d'ailleurs, parce que de toute façon, le principe est le même. Dans la thermodynamique, quand vous consommez 1 kW, vous en avez 5 de restitué, grosso modo.
Oui, 4.
Non, on est plutôt à 5. 4, c'est quand vous avez des phases de dégivrage, donc quand il fait très froid, on va plutôt vers le réchauffement climatique.
D'accord.
Donc, on est plutôt aujourd'hui sur des scopes de 5. Donc, 1 kW consommé, 5 kW restitué. Vous en avez 4 qui sont gratuits. Voilà, c'est aussi simple que ça, quoi.
D'accord, pour 1, on produit 5.
C'est ça.
Ok. Très bien, merci pour toutes ces précisions. Yannick Merlet, rappelons que vous êtes directeur général de Clim.
C'est comme Clim Plus.
Clim Plus, voilà.
Distributeur
professionnel en climatisation. Nous accueillons maintenant Bruno qui est au 32-16. Bonjour Bruno.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Bonjour Bruno.
Merci, bonjour Christian Pessé. Et son collègue.
C'est moi le collègue.
C'est mon collègue, comme on dit dans le midi.
Eh bien, bravo, il est dans le Gard.
Et puis, pourtant, je suis du Nord.
Dans le Gard, on dit toujours collègue.
Oui.
On vous écoute. Quelle est votre question, Bruno ?
Alors, ma question, j'ai raté un peu la mission du début de la semaine dernière.
Oui.
En 70, quand j'ai construit ma villa, c'était le mazout, à 23 centimes le litre, l'enfant. Et quelques années par après, le mazout, le chauffage, le moteur et tout, etc. Bon. Le gaz est arrivé grâce à une dizaine de propriétaires. On s'est groupés. On a eu le gaz. Donc je suis au gaz, d'accord. Mais ma cuve à mazout, elle est toujours là. Elle n'est pas à l'extérieur. Elle a été enchâssée, je pourrais dire, dans la maison, puisque la maison est assez grande, est reliée à la chaufferie. Et me semble-t-il, il y a toujours 500 litres de mazout.
Aïe. Alors, de toute façon.
C'est une cuve métallique qui a été faite, plombier l'a fait spécialement, entourée de sable, etc.
Ouais.
Et puis là, puisqu'on parle d'écologie et autres, je me dis, mazout est. Voilà.
C'est pas une question d'écologie, c'est une question de sécurité, tout bêtement. Donc, de toute façon, la loi est formelle. À partir du moment où votre cuve est désaffectée, il faut soit la déposer, soit la neutraliser, soit l'utiliser pour autre chose, à la limite. Bon, encore que sur le plan réglementaire, ça ne soit pas très clair, ce côté-là. Donc, de toute façon, il faut soit la démonter, c'est-à-dire la sortir.
C'est pas possible.
D'abord, il va falloir la dégazer. Il va falloir la vider pour commencer. Il va falloir la dégazer, c'est-à-dire éliminer les gaz qui sont donc contenus dans cette citerne, parce qu'il y a des risques d'explosion. En ce moment, vous êtes en risque d'explosion permanent. Donc à partir de là, on va la vider, on va la dégazer, et si c'est pas possible de la démonter, eh bien on va la neutraliser en la remplissant avec un produit inerte. Donc on va la remplir avec du sable, on va la remplir avec de la terre, on va la remplir avec du béton liquide qui va solidifier tout ça. Ce qui présente aussi l'avantage d'éviter les risques d'écrasement ultérieur, c'est-à-dire que si on laisse une cuve, alors chez vous là c'est pas très grave, c'est dans le sous-sol, mais si mettons vous y mettiez une voiture, si vous avez un garage, ou aussi elle était à l'extérieur sur une aire où peuvent circuler des voitures, au bout de 10 ans, vous avez complètement oublié votre cuve, et puis il y a un effondrement, votre bagnole elle passe dans la cuve, parce que la cuve elle s'est pourrie par le temps, 10, 15, 20 ans. Voilà. Donc de toute façon, vous n'avez pas d'autre solution que la neutralisation, à mon avis. Alors il y a une possibilité de la transformer en réserve d'eau si vous récupériez votre eau en toiture, mais c'est assez compliqué. Il faut chemiser l'intérieur de la cuve. Ça coûte à peu près la même chose. Sachez que vous pouvez obtenir jusqu'à 50% de crédit d'impôt, enfin ex-crédit d'impôt ou prime Rénov aujourd'hui pour cette opération.
Merci beaucoup Bruno. Allez, on termine avec votre coup de gueule. Christian, vous êtes évidemment contre ces arnaques à l'isolation par l'extérieur qui sont prétendument un euro.
Voilà, c'est alors pas le cas. En ce moment, il s'est développé depuis le début de l'année une arnaque à l'isolation, à l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur, des entreprises, des éco-délinquants, il faut les appeler comme ça, des marges des particuliers, leur faisant miroiter une isolation par l'extérieur à 1 euro. Ils font signer les papiers de délégation et de réception en blanc, ils font pendant qu'ils font les travaux souvent, puis on se méfie pas. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'ils font? Ils agrafent des panneaux à la va-vite de PSE, de polystyrène expansé sur la façade. Et puis hop, ils remballent le matériel et on les voit plus. C'est-à-dire qu'ils oublient entre guillemets de faire l'enduit de façade. Ils ont profité un temps qu'il y avait un petit flou dans la réglementation et donc maintenant c'est effectivement terminé. Mais le pactole est intéressant pour ceux qui font le coup, parce que ça pouvait aller jusqu'à 100 euros du mètre carré. Alors je ne sais pas si vous voyez le topo, il y a des unes qui sont engouffrées dans la brèche réglementaire. Alors l'ANA qui distribue MaPrimeRénov, a réagi de façon très curieuse en abaissant la prime de 65 à 75 euros, ce qui est complètement aberrant parce que ça ne va que pénaliser les particuliers et ça va surtout pénaliser les entreprises, surtout celles qui sont les entreprises qui sont engagées déjà dans des dossiers. C'est complètement stupide. Je ne comprends pas qu'on ait pris cette mesure. Allez faire des contrôles, Lana. Allez faire des contrôles chez les gens. Renforcer les contrôles, ça sera la meilleure façon de chasser les éco-délinquants.
Christian PC, on sera là samedi prochain, 7h-8h sur RMC pour la
Avec
maison.
Avec plaisir et on parlera de spa.
Ah, ça c'est bien, ça sera plus calme.
N'est-ce pas?
N'est-ce pas?
Mais rafraîchissant aussi.
N'est-ce pas? Allez, la météo, les infos, un point sur la circulation aussi. Et puis, Christian Ricca nous rejoindra pour une heure dédiée à la forme et la santé. À tout de suite sur RMC.